Stop, c'est parti.
C'est quoi la télé?
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello.
Et nous voici ensemble jusqu'à 10h pour entamer cette nouvelle année d'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il n'a jamais reçu d'Oscar, il fut pourtant l'acteur le plus célèbre, le plus adulé et le plus influent d'Hollywood. Il en fut tout simplement l'un des pionniers. D'ailleurs, c'est lui qui créa la cérémonie des Oscars. Son nom n'en fut pas moins oublié. Douglas Fairbanks a été le roi de l'Amérique dans les années 20. Raconter son histoire, c'est raconter la naissance d'une industrie de l'image. Et se souvenir qu'une poignée de saltimbanques refusa de céder entièrement le pouvoir aux empires naissants de la production et de la distribution que furent les studios et que sont toujours d'ailleurs les studios. Une épopée narrée à la première personne. Je suis une légende est diffusée demain soir sur Arte.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Happy New Year's.
Bonne année.
Bonne année.
Voilà, Clara et Julia Cooperberg sont mes invités. Vous êtes deux sœurs réalisatrices, ce qui est plutôt rare parce qu'on a l'habitude des tandems de frères réalisateurs. Dans le cinéma, il y en a beaucoup, beaucoup plus que des sœurs. Vous enquêtez, vous scénarisez, vous tournez, vous produisez entre Paris et Los Angeles depuis plusieurs années, comme votre père d'ailleurs, qui vivait entre la France et les États-Unis, qui fut agent d'acteur, qui fut auteur, réalisateur de documentaires et qui vous a élevé dans l'âge d'or du cinéma américain. Il y avait du muet dans votre éducation cinématographique.
Il y avait du Chaplin.
Il y avait du Chaplin.
Il y avait du Buster Keaton, mais alors il n'y avait pas du tout de Douglas Fairbanks.
D'accord, bah justement, on va en reparler. Vous avez raconté ces âges d'or, vous avez raconté aussi les coulisses d'Hollywood, son idéologie, ses luttes d'influence, son économie. Je précise qu'il y a un coffret qui vient de sortir, il était une fois Hollywood aux éditions Montparnasse, il y a 10 de vos documentaires. Alors, il y a tous vos sujets de prédilection, la censure à Hollywood, Gene Tierney, parce que les stars oubliées, c'est aussi votre rayon. Vous avez filmé aussi Los Angeles, la cité du film noir. Bref, votre marque de fabrique, c'est raconter Hollywood de l'intérieur. Spielberg, Scorsese, Cameron, Dustin Hoffman, en personne, hein, émaillent souvent vos films. Le problème, c'est que quand on raconte l'âge d'or du muet, eh bien, les témoins et les acteurs de cette naissance hollywoodienne sont morts et enterrés depuis belle lurette.
Pour imaginer ma notoriété, prenez la plus grande star de votre temps et multiplier sa renommée par 100, par 1000. Voilà qui était Douglas Fairbanks dans les années 20.
C'est un film entièrement écrit et raconté à la première personne. Pourquoi avoir fait ce choix relativement rare dans le documentaire ?
Oui, alors là, c'était
Julia Cooperberg.
Oui, alors c'était vraiment un challenge pour le coup. C'est la première fois qu'on fait un doc comme ça où il n'y a pas d'intervenant.
Non.
Non, c'est que écrit à la première personne. C'est nous qui avons écrit le texte parce que Douglas Fairbanks a oublié d'écrire ses mémoires.
Ouais.
Donc il y avait deux biographies très complètes de lui sur les.
Mais pas d'autobiographie.
Donc il a fallu reprendre ses biographies, le mettre au jeu, se mettre dans la peau d'un homme dans les années 20. Acrobate, costaud, masculin, sexy, et nous.
Donc et justement, Clara Cooperberg, vous avez choisi Laurent Lafitte de la Comédie Française, et puis, plus on regarde ces images et ces archives de Douglas Fairbanks, et plus on se demande si vous l'avez choisi aussi, parce que Laurent Lafitte est un homme assez musclé, assez imposant physiquement, parce qu'il est brun, parce qu'il est blanc de peau, parce qu'il a le sourire étincelant, comme Douglas Fairbanks.
Oui.
Il fallait cette similitude physique, oui ?
Nous, on voulait, oui, en fait, parce que comme le texte était la première personne, mais que contrairement à un autre documentaire, c'est pas un commentaire narratif, il fallait quelqu'un qui l'incarne. Et pour l'incarner, on avait besoin, nous en tout cas, de voir quelqu'un qui ressemblait à Fairbanks.
Alors que nous, on ne le voit pas, Laurent Lafitte, on n'a que sa voix.
Mais c'est vrai que quand on imagine Laurent Lafitte et qu'on s'est superposé avec les images de Douglas Fairbanks,
ça colle super bien. Ça colle totalement.
Et il a ça, il a le même charme, le même charisme, le même humour qu'avait Douglas Fairbanks.
Alors il y a une question qui me taraude depuis que j'ai terminé votre film. Douglas Fairbanks, fut-il un bon ou un mauvais acteur ?
C'est une bonne question.
Julia,
c'est une très bonne
Cooperberg.
Question, on nous la pose. C'est vrai qu'on... Moi, je crois qu'il est plus que ça, en fait. C'est ce qui nous a plu chez lui. C'est plus qu'un acteur, il a tout inventé.
Il a tout inventé, mais moi, je vous parle de l'acteur.
Bah oui, oui.
Et en tant qu'acteur aussi.
En tant qu'acteur aussi, il a inventé les mimiques, il a inventé le rôle du super-héros. Nous, on est amoureuse de lui, hein, maintenant, de toute façon, hein, soyons honnêtes.
Voilà,
hein,
c'est
donc,
on ne peut pas être
objective. Hein, non, mais il a créé un fantasme. C'était un fantasme à l'époque, parce que quand elle dit qu'il a tout inventé, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas Zorro, Robin des Bois, des super-héros, comme on a aujourd'hui. Nous, on est abondés de super-héros. Mais on n'avait pas ça dans les années 10. Et donc, il a apporté ça, avec en même temps, ce physique très sexy, hein, pour l'époque, nous, on a peut-être du mal aujourd'hui à s'en rendre compte, mais il était considéré comme un sexe symbole. Et puis, en même temps, une touche de gentillesse. Il avait une bonhomie.
Julia, c'est quand même l'histoire d'un acteur qui triompha à Broadway sur un bide épouvantable, c'est-à-dire sur un trou de mémoire.
C'est génial.
Il a tellement perdu son texte qu'il n'a rien pu faire d'autre que de sourire. Et c'est ce sourire qui est éminemment solaire qui fit son triomphe.
Ah oui, mais ce sourire, vous ne pouvez pas l'effacer de votre mémoire une fois que vous l'avez vu sourire. Mais lui, par contre, se pensait très mauvais acteur.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui rend sympathique et touchant, quoi. C'est qu'il ne s'aimait pas du tout en tant qu'acteur et qu'il a passé sa vie à essayer de se surpasser et de s'aimer et de s'accepter. Et quand le parlant est arrivé, ça a été...
On va y venir. Alors justement, vous l'avez dit, la typologie des héros que va incarner Douglas Fairbanks au cinéma est passionnante. Le premier d'entre eux, c'est Zorro. Donc le voici qui naît, ce héros au double visage, Don Diego de la Vega le jour, justicier masqué la nuit. Vous dites, ça préfigure Batman, ça préfigure Superman.
Absolument, oui.
Clara Cooperberg.
Non mais c'est vrai, absolument. Et lui, il part de cette idée géniale qu'il va faire les deux personnages. Mais enfin, faut pas oublier qu'il est le premier à faire ça.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que c'est amusant de se dire que quand même, 100 ans après, on est toujours dans la même franchise. On est toujours dans la même... Donc, il était quand même super précurseur.
Et là, vous ne parlez pas de franchise au sens d'honnêteté, hein.
Non, au sens du
business.
Ouais, carrément, ouais. Il serait milliardaire aujourd'hui.
C'est ça, au sens du business. Et c'est vraiment intéressant, Julia Cooperberg, parce que c'est un self-made man. Et à la fin de sa vie, c'est lui qui va créer le premier cursus de cinéma à l'université. Donc, c'est quelqu'un qui a démarré comme cascadeur à Hollywood, qui a été un athlète, parce que ses rôles de héros, parce que après Zorro, il y aura D'Artagnan, il y aura le Masque de Fer, il y aura des pirates, il y aura les Contes de Mille et Une Nuits, enfin bref, il y aura toutes les aventures et toutes les capes et les épées possibles. C'est lui qui va créer ce premier cursus de cinéma à l'Université de Los Angeles.
Et oui, parce qu'il voulait transmettre, et puis n'oublions pas qu'il a tout créé à Hollywood, de Beverly Hills, la cérémonie des Oscars. Beverly Hills, je dis ça, c'est lui qui a acheté la première maison à Beverly Hills, c'est du coup, après, tout le monde en a acheté une et tout le monde a voulu faire comme lui. Mais si aujourd'hui Beverly Hills est ce que c'est grâce à Douglas Fairbanks. Enfin, c'est dingue. Et les Oscars, c'est lui qui a créé la cérémonie des Oscars. Et même aujourd'hui, quand on voit des millions et des millions de personnes prendre des photos, des empreintes dans le ciment du Grauman Theater, c'est lui qui a mis ses empreintes en premier avec Mary Pickford. Enfin, c'est hyper émouvant, nous, quand on y retourne et qu'on les voit, ces empreintes. C'est super émouvant, quoi.
Alors, justement, avec Zorro et avec tous les héros qui vont suivre ensuite, à travers ces productions, ce que vous racontez, Clara Cooperberg, c'est l'invention du blockbuster. Et c'est là, justement, qu'on rentre dans la dimension industrielle du cinéma, ce qui est absolument passionnant dans ce film.
Mais ce qui est passionnant, c'est que ce type qui était un acteur de théâtre, qui devient un acteur, qui parachutait acteur, enfin star, faut pas oublier qu'en 1916, il fait 11 films, qui sont 11 succès, et il devient une star internationale. Et en fait, très vite, il se dit « j'en ai marre, je veux mon indépendance ». Donc il a son propre studio très rapidement, il produit lui-même ses films, et là il est dans une logique de super-production, c'est-à-dire il veut que tout soit plus grand que nature.
Mais finalement, il invente ce modèle économique.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il a des rêves absolument fous, c'est-à-dire des décors pharaoniques, mais c'est aussi derrière des investissements économiques colossaux et des retours sur investissements colossaux.
C'est ça. Incroyable, parce qu'en fait, il misait très gros, il misait même parfois son propre argent, il mettait sa chemise en jeu et il gagnait à chaque fois. Enfin, je veux dire, tous les blockbusters qu'il a produits, alors ça s'appelait pas des blockbusters, mais ça avait un retour sur investissement incroyable, ça faisait des cartons, hein, on dirait aujourd'hui, quoi.
Alors, deux séquences parlantes insérées malgré lui dans le Masque de Fer, à Hollywood, tout le monde s'y était mis, sauf lui.
Out of the shadows of the past, as from a faded tapestry of time's procession slow and vast, I step to bid you bear with me. The while your fancy I engage to look upon another age.
Douglas Fairbanks, c'est véritablement l'étoile du muet déchu. C'est une histoire aussi déchirante. C'est une histoire que nous a par exemple formidablement bien racontée Chantons sous la pluie, avec ce duo fictif de Lana Lamante et de Don Lockwood. Et Lana Lamante, le jour où on lui met un micro, c'est un cauchemar parce que sa voix est atroce. Alors je vous repose la même question. Est-ce que Douglas Fairbanks était suffisamment bon acteur pour passer au parlant, Julia Cooperberg?
Moi, je trouve qu'il n'avait pas du tout la voix de son physique, déjà. Et le public a été très surpris par ça. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il a une voix plutôt nasillarde. Mm-hmm. Et on s'attend à avoir une voix très suave et très chaleureuse. Et pas du tout.
Mais les micros de l'époque permettaient de faire des voix suaves et généreuses? Oui.
Oui, quand même. On a retrouvé après des archives. Lui avait une voix comme ça, de toute façon, dans la vie. Mm-hmm. Et non, je pense qu'il n'était pas assez bon acteur pour suivre, pour faire la transition. Et puis, il était dans un carcan de rôle, c'était le super-héros. Et après, le parlant, c'est 1929, c'est la dépression, l'Amérique change. On n'a plus envie de voir Zorro, on n'a pas envie de voir des crétins sauter partout. L'Amérique souffre, là, donc ses rôles ne marchaient plus. Son persona ne fonctionnait plus, en fait.
Personnage que le public, en fait, lui a interdit de quitter, hein, parce que plusieurs fois, il a essayé, il a tenté d'autres registres cinématographiques. Et puis, finalement, le public n'a pas suivi. Clara Cooperberg, vous racontez aussi une merveilleuse histoire d'amitié, c'est son amitié avec Charlie Chaplin, ce qui est absolument incroyable parce que les deux nous semblent aux antipodes de l'échiquier hollywoodien. Et non, pourtant, ils étaient inséparables. Pendant 20 ans, inséparables.
C'est ça, inséparables. Ouais. Ils faisaient des grandes balades à cheval sous le Hollywood Sign. Ouais. Dans la maison de Douglas Fairbanks, il y avait une chambre pour Chaplin. C'était la chambre de Chaplin. Ils partaient au petit matin faire des balades. Ils étaient inséparables. Et ils n'ont jamais tourné ensemble. Ils sont souvent
en même temps, vous avez retrouvé des archives. Je ne sais pas où vous les avez retrouvées, mais ces archives où on les voit tous les deux échanger leur rôle.
C'est génial.
Et Douglas Fairbanks, qui est tout en muscles et en sourire ultra-bâle, qui d'un seul coup se met à faire Charlot. Elles sont incroyables.
C'est magnifique.
Ces images.
Elles viennent d'un fonds américain. Et c'est incroyable. C'est une petite pépite, que c'est merveilleux. Ces images où ils échangent leur rôle, c'est merveilleux, Et en même temps, ils étaient très, très proches. Ils étaient très proches aussi avec Mary Pickford, ils formaient une sorte de trio.
Ils avaient quand même Douglas Fairbanks. Et Chaplin, lui, va décider que Charlot ne parlera jamais.
Voilà, il changera d'avis, parce que bon, quand même. Mais au départ, avec l'arrivée du muet, il dit non, moi c'est hors de question, c'est rédhibitoire, Bon, il changera d'avis et heureusement, ça lui permettra de survivre à l'arrivée du parlant, ce que n'a pas réussi à faire Fairbanks.
Fairbanks. Alors, le premier film véritablement parlant de Douglas Fairbanks s'appelle La mégère apprivoisée, d'après Shakespeare. Il le tourne avec son épouse, Mary Pickford. Ford, et c'est un flop.
Ah, Kate! Wild Kate! Oh, Kate! Oh!
No! How are you? Oh!
Julia Cooperberg, il faut raconter ce couple. Parce que vous, vous dites, l'Amérique a trouvé son couple royal. Mary Pickford et Douglas Fairbanks, qui étaient tous les deux, chacun de leur côté, avant de se rencontrer, les stars les mieux payées d'Hollywood.
En fait, c'était le bras Angelina, c'était Brad Pitt et Angelina de l'époque. Vraiment. C'était le premier couple royal que l'Amérique n'a jamais eu. Et ils étaient, c'est même pas idolâtré le mot en fait, je pense que l'Amérique était folle, hystérique dès qu'elle les voyait. Et d'ailleurs, il y a des images d'archives dans le doc.
Toute l'Europe, puisque leur voyage de noces passe par Paris.
Paris, les Parisiens.
Ils arrivent en haillons à l'hôtel le soir parce qu'une foule s'est littéralement jetée sur eux.
C'était les deux plus grandes stars et puis c'est le début du star system. Ils ont inventé ça aussi. D'ailleurs, ils ont su en jouer. Ils ont joué beaucoup avec des journalistes. Ils mettaient en scène leurs apparitions. C'était malin pour l'époque. Ça n'avait pas existé, encore une fois. Aujourd'hui, ça paraît un peu... tout le monde le fait. Oui. Mais à l'époque, personne ne l'avait fait.
Clara Cooperberg, l'un et l'autre ont divorcé pour pouvoir se marier.
Ensemble.
Elle était catholique. Et ça a été une épreuve. Ça a été un grand moment de doute. C'est-à-dire, est-ce que Hollywood allait accepter le divorce pour une catholique? Est-ce que le public allait accepter le divorce?
Oui, puis parce qu'elle était la petite fille de l'Amérique. Elle était idolâtrée. Elle était quand même classée entre les chutes du Niagara et je ne sais plus quelle autre merveille du monde, mais on l'avait classé merveille
et
du monde.
Et
le Grand Canyon, voilà, bravo.
La petite fiancée de l'Amérique.
Enfin, elle était une icône pour les Américains.
Et cantonnée à des rôles d'enfant. Là, vous racontez quelque chose d'absolument incroyable.
On lui écrasait la poitrine. En fait, on lui écrasait la poitrine avec des robes spéciales.
Elle avait 30 ans.
Elle avait 30 ans à l'époque et elle faisait des rôles de gamine de 10 ans. Et il n'était pas question de la voir vieillir ou de la voir amoureuse ou de la voir même avec une vie sexuelle. Alors là, quelle horreur. Donc, on lui aplatissait la poitrine. On mettait des hommes plus grands qu'elle pour avoir l'impression qu'elle était une enfant. enfants. Même les poignées de porte étaient rehaussées dans les décors pour qu'on ait l'impression qu'elles étaient très hautes quand elle les attrapait.
Et le jour où elle a voulu couper ses cheveux, couper ses boucles...
Le drame national.
Drame national,
on a envoyé des caméras chez le coiffeur pour filmer la scène. Parce qu'on avait peur que l'Amérique entière s'effondre. Les gens
Alors en même temps, ce couple tout puissant hein, a accueilli dans cette villa dont parlait Julia sur les hauteurs de Beverly Hills, a accueilli tout ce qu'il pouvait y avoir de têtes couronnées, de présidents européens, américains, sud-américains, a reçu Einstein, Fitzgerald, enfin dans des fêtes absolument romanesque, c'est-à-dire qu'on est en pleine littérature, c'est absolument incroyable. Et en même temps, c'est aussi un couple avec Chaplin et avec leur grand ami D.W. Griffin, qui est un immense réalisateur. C'est ce couple qui a repris le pouvoir, c'est ce que je disais en introduction de cette émission, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant dans cette histoire, c'est la création de United Artists, Julia Cooperberg.
United Artists, qui est le premier studio indépendant. Mm-hmm. Donc on est au milieu de plusieurs studios aux États-Unis et là...
Qui poussent comme des champignons hein, à l'époque.
Qui poussent comme des champignons.
Et la Warner Bros. Qui arrive d'un côté, Paramount... Ouais.
Tous les jours, il y en a un nouveau qui se crée.
Voilà.
Et eux décident de s'affranchir des producteurs... évidemment parce qu'ils se faisaient arnaquer par les producteurs sur les ventes internationales des films, je vous passe les détails, et ils décident avec Chaplin et Griffiths de monter leur propre studio. Et on a les images de la signature qui sont super.
Mais la signature c'est incroyable parce que là aussi ils savent médiatiser, ils savent déjà événementialiser cette signature. Les images feront le tour du monde, Clara Cooperberg.
Mais c'est génial, ils sont hyper malins, ils recréent la signature parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la signature en fait est un peu différée.
Oui.
Donc ils font venir les caméras, ils se mettent en scène, Chaplin met le costume de Charlot, oui. Griffith met son plus beau costume de dandy, Mary Pickford se refait ses boucles. Enfin voilà quoi, tout le monde se met en scène, convoque la presse internationale et on joue la signature, la création de ce grand studio indépendant.
Et alors finalement, qui s'est créé aussi contre Zucker, contre la Paramount ? Parce qu'il faut raconter, Julia Cooperberg, que Chaplin a quand même envoyé un détective privé en la personne d'une jeune femme blonde ravissante pour avoir des informations. Il pressentait que la Paramount allait les écrabouiller et il avait raison.
Ça c'est une histoire vraie. Qu'on a retrouvé dans les biographies de Chaplin, notamment l'histoire de la belle blonde qu'il envoie espionner dans les bureaux, qui est géniale. Et donc oui, ils ont pressenti ça tout de suite et ils se sont dit, en secret pendant quelques temps, il faut qu'on crée notre propre studio. Et ils se sont, tous les quatre, ils l'ont fait en cachette. C'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'ils se rejoignaient le soir et puis c'est comment on peut faire pour pas se faire écraser. Encore une fois, à l'époque, ça n'existe pas. Le studio indépendant dirigé par des acteurs, ça n'existe pas, quoi. Et donc ils ont
eu l'idée... Et là, on parle de production et on parle de distribution.
Exactement.
Aussi, c'est-à-dire la capacité à monnayer, à vendre, à diffuser et à contrôler l'exposition d'un film dans le monde entier.
Oui, oui, ils font tout de A à Z. Et, oui, et ce sont les premiers à le faire. Et ce qui est dingue, c'est que 100 ans après, ça existe toujours. United Artists existe toujours.
Alors, Mary Pickford, elle n'a pas été donc que la petite fiancée de l'Amérique, elle n'a pas été que l'épouse de Douglas Fairbanks qui finira par la tromper et leur couple volera en éclats sans doute sur l'autel de cette notoriété qui a dû être écrasante. Mais en fait, Mary Pickford, dont on a encore plus peut-être oublié le nom que celui de son époux, a été une immense femme d'affaires et une immense pionnière à Hollywood, Clara Cooperberg.
Parce que là,
il y a une histoire de femme qui est unique aussi.
Qui est incroyable parce que d'abord, c'était la femme la mieux payée en tant qu'actrice. Mm-hmm. Elle avait réussi justement à arracher de force à Zucker un contrat $1 million à l'époque qui était gigantesque. Donc elle était l'actrice la plus puissante. Mm-hmm. Donc ça lui a aussi permis d'aller créer son propre studio. Il y avait le Mary Pickford Studio. Ensuite, elle a fait le Pickford Fairbanks Studio avec Douglas Fairbanks. Et puis, alors là, ils se sont affranchis complètement. Et elle est devenue une super businesswoman et une productrice de fer, quoi, la main de fer, hein, parce qu'elle tenait ses productions.
Hein. Alors, un dernier mot avant de se quitter. C'est aussi un hommage, ce récit sur les pionniers d'Hollywood et sur la naissance de l'industrie cinématographique. C'est aussi un hommage aux petits métiers du cinéma qui apparaissent les uns après les autres dans votre film. Julia Cooperberg, par exemple, il y a les coloristes.
C'est génial. On a retrouvé les archives de vrais techniciens qui sont vraiment en train de coloriser les images, la pellicule. Donc, mm-hmm. il y avait des codes de couleurs parce que comme il n'y avait pas de parole et que les films étaient muets, il fallait bien expliquer aux spectateurs si c'était la nuit, le jour, l'intérieur, l'extérieur. Et donc, ils peignaient d'une certaine couleur. Donc, la nuit, c'était bleu. Les scènes d'amour étaient en rose.
Le désert était sépia.
Exactement. Et c'est génial.
Les scènes de forêt de Robin des Bois étaient vertes.
Oui, oui. Et on a retrouvé ces images.
On les voit, hein, plonger la pellicule dans des bains de couleurs et tout ça, c'est magnifique. On voit aussi des femmes, parce que le montage était un métier de femmes, Clara Kupperberg.
Souvent, une raison très simple, elles avaient des petites mains, donc on jugeait que pour couper la pellicule et la recoller, c'était très pratique. Elles savaient coudre, donc il y avait cette...
C'est ça, c'était les couturières du cinéma, c'est très joli. Merci beaucoup à toutes les deux, Julia et Clara Kupperberg. Donc je rappelle que Je suis une légende racontée par Laurent Lafitte, alias Douglas Fairbanks, est diffusé demain soir sur Arte, et qu'il était une fois Hollywood et sorti aux éditions Montparnasse. C'est un coffret de 5 DVD qui regroupe 10 de vos films sur les coulisses du 7e art. Merci à toutes
les deux. Merci beaucoup.
Il est 10h sur France Inter.